VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui en ce jeudi 15 mars 2018. Au micro, Jacques Aristide.
Et Anne Albertson.
À la une ce matin, Anne.
Au Tchad, gouvernement et syndicats parviennent à un accord pour mettre fin à la grève du secteur public.
Dès la sortie de cette salle, cet accord sera mis en œuvre et les salaires des fonctionnaires seront automatiquement payés.
Au Sénégal, 6 morts et 14 blessés dans l'accident d'un hélicoptère de l'armée.
Réforme agraire en Afrique du Sud, l'Australie envisage des visas pour les fermiers blancs.
Aux États-Unis, le Congrès débloque des millions de dollars pour tenter d'empêcher de nouvelles fusillades dans les écoles.
Et ne ratez pas non plus, dans 9 minutes, vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sportive.
La grève générale au Tchad est suspendue après un mois et demi de débrayage qui a paralysé l'administration du pays. Un accord a été paraphé entre le gouvernement et les syndicats hier soir sur instruction du président Idriss Déby Itno de N'Djamena, le compte-rendu d'André Kodmadjingar.
Ce protocole d'accord intervient à l'issue d'une âpre négociation entre le cabinet civil du président de la République et le responsable de la plateforme syndicale revendicative meneur de cette grogne sociale. L'accord prévoit la suspension de la grève générale en cours dans le secteur public, mais la reprise du travail est conditionnée par le paiement de salaires de mois de février 2018 à tous les agents de l'État, l'application d'un moratoire de 3 mois par l'établissement bancaire sur les prêts contractés par les agents de l'État auprès de ces institutions et la suspension du recensement en cours. Le ministre de la Fonction publique rassure ses partenaires en ces termes, Mukhtar Mahamat Ali.
Dès la sortie de cette salle, cet accord sera mis en œuvre et les salaires des fonctionnaires seront automatiquement payés. Soyez rassurés que je suis à votre disposition pour l'application intégrale de cet accord qui vient d'être signé.
Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad et porte-parole de la plateforme syndicale, se réjouit du fait que le décret 687 portant restriction du droit de grève ne sera pas appliqué et que le gouvernement s'engage à rembourser les salaires des fonctionnaires coupés. Ce protocole d'accord est un ouf de soulagement pour la population tchadienne qui devrait désormais se faire soigner dans les hôpitaux et centres de santé publics ainsi que les élèves et étudiants qui, après un mois et demi passé à la maison, vont reprendre le chemin de cours. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
Crash d'un hélicoptère militaire dans le sud du Sénégal hier soir. 6 personnes ont été tuées et 14 autres blessées, dont 3 grièvement. Les causes de l'accident étaient encore indéterminées hier soir. L'hélicoptère qui avait acheminé une dépouille à Ziguinchor en Casamance est tombé en début de soirée au large de Missira dans une zone de mangrove avec 20 personnes à bord, dont les 4 membres d'équipage et des civils, selon le porte-parole de l'armée sénégalaise, le colonel Abnou Ndiaye. Les autorités vont mettre en place une commission d'enquête pour déterminer les circonstances de l'accident.
2 jeunes hommes ont été tués hier à Conakry lors de nouvelles manifestations de l'opposition en Guinée, où s'est pourtant achevée une grève des enseignants de plus d'un mois après un accord avec le gouvernement. Des partisans de l'opposition qui contestent les résultats des élections locales du 4 février, officiellement remportées par le parti du président Alpha Condé, ont de nouveau manifesté hier dans la capitale et en province.
En République centrafricaine, les activités humanitaires à Bangassou ont été suspendues en raison du pillage des équipements et des installations de 4 ONG dans cette ville du sud-est. L'ONU indique que ses partenaires humanitaires ont été relocalisés à Bangui. Vendredi dernier, des éléments armés, vraisemblablement des anti-balaka d'après la MINUSCA, ont attaqué les entrepôts de l'ONG Corded.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est engagé hier à accélérer la réforme agraire destinée à redistribuer des terres de la minorité blanche au profit de la majorité noire. Le point avec Morgane Guiriec.
C'est l'un des points essentiels du débat sur les inégalités créées par l'ancien régime de l'apartheid. Nous devons travailler rapidement pour accélérer le rythme de la réforme agraire, a déclaré Cyril Ramaphosa devant les députés. Il a rappelé que la minorité blanche, qui représente 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% pour la majorité noire, qui représente 80% de la population. Depuis son arrivée au pouvoir en février, M. Ramaphosa est pressé de toutes parts. Son propre parti, l'ANC, a adopté en décembre une motion pour l'expropriation des terres sans compensation. Julius Malema, qui dirige la troisième force politique, en a fait aussi son cheval de bataille. Le président Ramaphosa les a mis en garde contre des saisies illégales de terres qui, selon lui, seraient de l'anarchie. La question reviendra certainement dans la campagne pour les élections générales de 2019. Monsieur Ramaphosa, ancien syndicaliste et riche homme d'affaires, doit tenter de reconquérir un électorat écœuré par la corruption et en même temps rassurer les marchés pour relancer l'économie.
Ajoutons que l'Australie a dit hier vouloir faciliter la délivrance de visas d'immigration pour les fermiers sud-africains blancs afin qu'ils puissent fuir, d'après les mots de Canberra, leurs conditions atroces et gagner un pays civilisé. La proposition a immédiatement été balayée par Pretoria, un porte-parole du gouvernement sud-africain déclarant qu'aucune catégorie de population n'était en danger.
Deux partis qui espéraient bousculer la scène politique en Sierra Leone contestent les résultats du premier tour de la présidentielle, largement remporté par les deux grandes formations traditionnelles. La grande coalition nationale du candidat Kande Yumkela dit examiner un recours devant les tribunaux, alors que celui de l'ancien vice-président Samuel Sam Soumana a déjà saisi la commission électorale du pays pour que les bulletins soient recomptés dans plusieurs endroits.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Libye, des mandats d'arrêt ont été émis contre plus de 200 trafiquants, tant locaux qu'étrangers, impliqués dans un vaste réseau d'immigration clandestine vers l'Europe. Des détails avec Abdourahmane Dia.
Sadiq Al-Sour, le chef du service des investigations au bureau du procureur général, a déclaré que les mandats d'arrêt visent en tout 205 personnes impliquées dans des opérations d'immigration, la traite d'êtres humains, des cas de torture, de meurtre et de viol. Il a précisé que des membres des services de sécurité, des responsables de camps de détention de migrants ainsi que des fonctionnaires d'ambassades de pays africains en Libye sont impliqués dans le trafic de l'immigration clandestine. M. Al-Sour a indiqué que les investigations sur les réseaux de passeurs avaient été menées en coordination avec le parquet italien. Rome et Tripoli avaient convenu en décembre dernier de former une cellule conjointe pour lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. La Libye, qui a sombré dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, est devenue une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants africains tentant de rallier l'Europe.
Au Maroc, 9 personnes ont été interpellées hier après des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Des heurts qui ont fait des blessés dans l'ancienne ville minière de Djerada, Claire Morin-Gibourg.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des face-à-face tendues entre la police et les manifestants. Sur Facebook, des militants ont accusé les forces de l'ordre d'avoir chargé la foule. Pour les autorités locales, il y a eu confrontation après que des jeunes cagoulés ont commencé à attaquer les forces de l'ordre avec des jets de pierre. Des médias ont fait état de blessés, mais les autorités n'ont pas publié de bilan. Des protestataires se sont aussi rassemblés devant des puits clandestins d'extraction de charbon proches de la ville. Des hommes sont descendus dans ces puits de la mort pour protester contre l'approche sécuritaire adoptée par les autorités. Djerada est agité par un mouvement de protestation depuis fin décembre à la suite de la mort accidentelle de 2 mineurs dans un puits désaffecté de charbon. De grandes manifestations pacifiques se sont succédées pour demander des alternatives économiques à l'extraction clandestine de charbon.
Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté hier une enveloppe de 75 millions de dollars annuels pour que les écoles investissent dans leur sécurité. Quant aux élèves américains, ils sont sortis symboliquement hier pour dénoncer les fusillades, un mois jour pour jour après la tuerie de Parkland en Floride. Erika Badou.
De New York à Los Angeles, de Chicago à Houston, des élèves sont sortis et ont répété des slogans avec des pancartes pour un événement baptisé National School Walkout. Ils ont symboliquement quitté les classes pendant 17 minutes, soit une minute pour chacune des 17 personnes tuées par balle le 14 février dans la fusillade dans un lycée de Parkland en Floride. Un mois jour pour jour après cette tuerie, les élus républicains et démocrates de la Chambre des représentants ont approuvé hier la proposition de loi à une très large majorité, 407 voix contre 10. Ce texte offre des subventions aux polices et écoles pour l'achat de systèmes pour le signalement de menaces en amont, alerter plus rapidement les forces de l'ordre et l'installation de portes renforcées dans les salles de classe ou de détecteurs de métaux. La loi aide les écoles à se sécuriser et à se préparer, à saluer le président républicain de la Chambre, Paul Ryan. Les démocrates ont regretté que les chefs républicains du Congrès persistent à refuser d'inclure des mesures pour restreindre l'accès aux armes, comme la hausse de l'âge minimum de 18 à 21 ans.
La première ministre britannique Theresa May a annoncé l'expulsion de 23 diplomates et le gel de contacts bilatéraux avec la Russie, qu'elle a déclaré coupable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur son sol. Mais Moscou a dénoncé une provocation grossière. À New York, lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU convoquée en urgence à la demande de Londres, les États-Unis, solidaires du Royaume-Uni, ont eux aussi affirmé que la Russie était responsable de cet empoisonnement. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Comme promis, le point à présent sur l'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco avec ce matin Eric Manirakiza.
D'après la BAD, l'Afrique du Nord devrait renouer avec des performances économiques stables en 2018-2019. La production pétrolière de la Libye a porté la croissance économique de la région. Ensuite vient l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et enfin la Mauritanie. Le développement de nouveaux secteurs comme l'électronique et la mécanique, la consommation privée et publique devraient permettre à l'économie nord-africaine d'être l'une des plus performantes du continent pour les prochaines années. La dette publique nigériane a atteint plus de 60 milliards de dollars à la fin de l'année 2017. Il s'agit d'une augmentation de plus de 25% par rapport à 2016. La dette interne occupe 70%, tandis que la dette extérieure en représente 30%. La Banque mondiale table sur une croissance de 2,5% en 2018, stimulée notamment par l'amélioration des réformes qui ont permis de sortir de la récession en 2016. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Turquie ont dépassé 4 milliards de dollars en 2017. D'après le ministre égyptien de l'Industrie et du Commerce extérieur, les exportations de l'Égypte vers la Turquie se sont élevées à près de 2 milliards de dollars. Ceci correspond à une augmentation de 38,5% par rapport à 2016. Les produits chimiques, les vêtements et les textiles constituent l'essentiel des exportations. La Turquie est le deuxième plus grand importateur de produits égyptiens après les Émirats arabes unis.
Et maintenant, la chronique sportive du matin avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Le Barça et le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions.
Auteur d'un doublé contre Chelsea, l'Argentin Lionel Messi a été l'artisan majeur de la qualification du Barça pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Une victoire nette, 3-0 face aux Londoniens. L'Argentin n'a mis que 2 minutes et 8 secondes à s'illustrer en inscrivant tout d'abord le but le plus rapide de sa carrière en trompant le gardien Thibaut Courtois d'une frappe qui glissait entre les jambes du Belge. Le portier de Chelsea qui subissait exactement le même sort en deuxième période pour la 100e réalisation de Lionel Messi en Ligue des Champions. A noter que Messi a également offert une passe pour le premier but d'Ousmane Dembélé avec le club catalan. Victoire donc 3-0. L'autre grande équipe qui s'est qualifiée hier, c'est le Bayern de Munich qui est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse de Beşiktaş à Istanbul, ce qui permet à son entraîneur Jupp Heynckes de remporter un 11e succès de rang en Ligue des Champions. Un record.
Place à la Ligue Europa ce jeudi.
Et Dortmund qui va devoir batailler pour sauver en 8e de finale retour de l'Europa League contre Salzbourg après sa défaite de 1 à l'aller à domicile. Chez les autres grosses écuries européennes, Arsenal a pris une belle option sur la qualification en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Milan AC à l'aller. Quant à l'Atlético Madrid, c'est aussi bien parti après un succès 3-0 contre le Lokomotiv Moscou. Il faudra quand même se méfier pour les Madrilènes du froid moscovite. On attend ce jeudi entre moins 2 et moins 3 dans l'après-midi dans la capitale russe. Demi-finaliste la saison dernière, Lyon a pris une option contre le CSKA Moscou en s'imposant 1-0 en Russie. Marseille se rend sur la pelouse de l'Athletic Bilbao après une victoire 3-1 à l'aller au Vélodrome.
Sanction pour l'étoile sportive du Sahel.
Oui, le club tunisien jouera ses 3 prochaines rencontres à domicile à huis clos. C'est ce qu'a décidé la Ligue tunisienne suite aux incidents survenus dimanche lors de la réception du club africain. Les rencontres disputées à huis clos seront celles face à la JS Kairouan ou encore le CO Medellin et un match de Coupe de Tunisie lorsque le tirage au sort aura été effectué. Allez Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Eh bien, les Wizards de Washington ont effacé un déficit de 20 points pour s'imposer cette nuit sur le parquet de Boston au terme d'une double prolongation 125 à 124. Les Celtics de Boston concèdent ainsi leur deuxième défaite de suite, la 22e de la saison. Quant au Magic d'Orlando, il a rebondi pour l'emporter 126 à 117 sur les Bucks de Milwaukee.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nous entamons maintenant la seconde partie du Monde aujourd'hui avec nos dossiers du jour. Jacques Aristide, toujours avec vous. Mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. En République centrafricaine, 10 femmes ont été violées à plusieurs reprises par des membres d'un groupe armé local qui les avait enlevées lors d'une attaque le mois dernier. Les victimes sont arrivées le 3 mars dernier à l'hôpital de Bosangoa où elles sont traitées par le personnel de Médecins Sans Frontières. L'attaque aurait eu lieu le 17 février près de Kiriwiri, un village situé à 56 km de Bosangoa. Nathalie Barge a joint Paul Brockman, chef de mission MSF en République centrafricaine.
Le plus grand problème pour beaucoup de ces femmes, c'est simplement manque d'accès aux motos, aux capacités de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Et les femmes n'ont pu venir à l'hôpital que le 3 mars. Les plus grandes blessures, évidemment, étaient ceux de l'esprit et le soin psychosocial sont très importants pour ces femmes. Mais parlons un petit moment des grands risques des maladies sexuellement transmissibles qui sont un vrai risque pour les femmes qui ont été violées. Le problème là, c'est cet attardement pour pouvoir se présenter pour les soins. Si on peut accéder aux soins en dehors de 2 jours, 3 jours, il y a la prophylaxie contre le sida, contre le HIV, qui est très efficace à minimiser, voire complètement éliminer la risque de sida. Mais il faut se présenter au plus vite, si possible immédiatement, après un viol. Même chose pour la contraception d'urgence, qui est plus efficace en dehors de 2 ou 3 jours. Malheureusement, car ces femmes sont toutes venues nous voir après presque 2 semaines, ces traitements n'étaient pas efficaces pour eux, on ne les a pas donné. Quand même, il y a les autres risques des autres infections sexuellement transmises, qui ne sont parfois pas immédiatement visibles, mais qui peuvent venir si on ne se fait pas traiter. Là, on a pu donner les antibiotiques contre syphilis, gonorrhée, etc. Et on a pu donner les vaccinations contre l'hépatite B et contre le tétanus, ce qui est très important dans les cas.
Alors MSF rappelle évidemment que malheureusement, il y a beaucoup d'autres femmes qui se font violer et qu'il est très difficile justement pour elles d'accéder à des soins. Comment procédez-vous et que préconisez-vous pour soutenir ces femmes et ces jeunes filles qui pourraient se faire violer?
C'est vrai qu'il est clair dans tous les rapports des 10 femmes que nous avons pu soigner jusqu'ici, il est clair qu'elles disent tous qu'il y avait beaucoup d'autres femmes qui ont été violées. Notre réponse, c'est d'augmenter notre sensibilisation sur l'axe et nos équipes bougent parfois sur l'axe pour les sensibilisations. Il y a aussi beaucoup d'autres ONG avec lesquelles nous travaillons plus ou moins dans un cadre de renforcement de accès aux soins pour les victimes de violences sexuelles. Hormis cela, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui peut être fait parce qu'il y a beaucoup de besoins dans la zone. Et la sensibilisation, le renforcement des postes de santé, les centres de santé villageois, ça c'est vraiment un besoin, non seulement là dans le Nord-Ouest, mais aussi partout dans le pays.
Paul Brockman, chef de mission Médecins Sans Frontières en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Cap sur la République démocratique du Congo, les affrontements interethniques en Ituri provoquent des inquiétudes sur la tenue des élections prévues pour décembre prochain. Mais pour le député Grégoire Luzenge de l'opposition, le régime du président Joseph Kabila ne doit pas prendre ces violences pour prétexte afin de retarder pour la énième fois le rendez-vous électoral tant attendu. Pour un décrypteur, Eddy Sango s'est entretenu avec le journaliste congolais Nikes Kibel Beloka, auteur d'un livre sur ce conflit interethnique en Ituri.
La situation n'a presque pas évolué, sinon elle a évolué négativement parce que il y a cela 2 jours à déplorer encore des morts qui sont là en train de trouver une solution. Donc la situation n'a pas évolué dans le sens du bon, la situation est encore préoccupante.
Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les violences interethniques reprennent alors que tout était réglé avec même l'intervention de la CPI?
Le problème n'avait pas été bien réglé parce que comme vous citez la CPI a fait un peu de rééquilibrisme. On a pris dans chaque communauté une ou deux personnes, on les a amenés comme dans une sorte de quota, on les a amenés à la CPI sans pour autant chercher les racines du problème. Et les racines du problème sont restées les mêmes. C'est comme un chat séché, il suffit seulement d'un mégot de cigarette et tout s'enflamme. Mais il y a aussi un autre problème. Du fait qu'on refuse de voir le vrai problème, tout le monde vit comme si des gens sont venus d'ailleurs pour créer l'insécurité. Parce que la situation de tout le temps, c'est toujours « Ah, il y a des gens qui viennent nous manipuler ». Mais on n'a jamais résolu le problème qui est à la base, qui sont à la base des affrontements. On fait comme une sorte de pansement. Le problème est d'abord dans la cohabitation des communautés.
Mais ces violences ont lieu alors qu'il y a une présence des autorités sur place, en plus de l'armée et de la MONUSCO.
Nous sommes dans la série des guérillas urbaines, des guérillas rurales, des guerres asymétriques. Les forces armées de la démocratie du Congo, le casque bleu, ils viennent dans une guerre conventionnelle. Les ennemis qu'ils trouvent sur le terrain, c'est des miliciens, c'est des gens qui maîtrisent le terrain, qui ont des armes blanches, qui ont aussi des armes à feu. Mais la tactique ou la stratégie utilisée par les FARDC et la MONUSCO ne répondent pas à l'insécurité, à la violence qui est dans l'est de la RDC.
Un député, monsieur Grégoire Lusenge, tire la sonnette d'alarme pour que ces violences ne puissent pas être servir de prétexte en vue de reporter les élections.
La violence, elle n'a rien à voir avec les élections qui vont arriver, parce que cette violence, même s'il y a élection demain, cette violence ne cessera pas tant qu'on ne trouvera pas les causes, tant qu'on n'aura pas à la racine des mots. Donc cette lecture, c'est une lecture légère, c'est une lecture superficielle. Depuis les années 90, nous sommes dans la violence, notamment à l'Est. Il faut trouver des solutions. C'est vrai que la faillite de l'État contribue à créer ces zones grises, mais le problème est fondamental.
L'auteur congolais Nikeza Kibel-Beluka, également directeur du journal Les Coulisses.
Cette semaine dans Washington Forum, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les partis ont jusqu'à la fin du mois pour déposer le nom des plateformes politiques qui vont se présenter, mais déjà, des candidats ont fait part de leurs ambitions présidentielles. Après plusieurs reports, le vote est prévu le 23 décembre 2018, soit deux ans après la fin théorique du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Dans l'attente de ce scrutin, les manifestations interdites persistent en dépit de la répression. Qui sont les candidats? Qui représentera le parti au pouvoir? Le calendrier électoral peut-il être respecté? On en discute dans Washington Forum. Morgane Guiriac avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
Au Bénin, l'affaire de faux médicaments qui défraie la chronique depuis fin l'année dernière a connu un nouveau développement mardi dernier avec l'emprisonnement de 5 pharmaciens grossistes et de 2 collaborateurs du député de l'opposition Atao Inouo. Par qui tout a commencé? Quant au gouvernement de Patrice Talon, il a décidé de combattre le commerce illicite des médicaments dans le pays, d'où la suspension pour une durée de 6 mois de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Mais à Cotonou, on estime qu'il faut aller plus loin de la capitale béninoise. Le reportage de notre correspondante Ginette Fleur-Adande.
Près de 10 ans après l'appel de Cotonou contre les faux médicaments, c'est la première fois que le combat contre les faux médicaments arrive à prospérer. Un marché dédié à la commercialisation des médicaments illicites a été démoli. Des centaines de tonnes de médicaments ont été détruites, des grossistes répartiteurs emprisonnés et un député présumé patron de ce commerce illicite est en cavale. Pour l'un des avocats de la partie civile, c'est un signal fort qu'envoie le gouvernement de Patrice Talon.
Nous sommes contentés, en tout cas l'État béninois, de démontrer que ce procès est un procès de salubrité publique, un procès qui vise à préserver la santé des Béninois, un procès qui vise à mettre fin au désordre qui se manifeste depuis des années déjà dans le monde pharmaceutique.
Mais pour Yannick Mawignon, cadre de l'administration béninoise, le combat manque de justice.
Je crois que le gouvernement, la justice, devrait tout faire pour sanctionner tous les acteurs et non se mettre dans une dynamique à sanctionner certains acteurs et à laisser d'autres pour des raisons inavouées. Il ne faut pas donner l'impression de faire deux poids deux mesures.
100 millions d'amendes en guise de dommages et d'intérêts à payer au gouvernement. Pour certains, c'est absurde de payer le gouvernement quand on sait que les plus grandes victimes restent ces milliers de Béninois, véritables consommateurs des médicaments illicites et qui se retrouvent dans les hôpitaux pour insuffisance rénale, cardiaque, respiratoire.
Quand vous allez au service de dialyse au CNHU, vous allez trouver beaucoup de Béninois qui sont aujourd'hui dialysés parce que c'est les faux médicaments qui les ont rendus des malades.
Si tant est-il que les médicaments incriminés sont vraiment de faux médicaments, médicaments, c'est les consommateurs finaux qui ont ingurgité ces produits-là, qui pourraient en subir les conséquences néfastes.
Le secteur pharmaceutique doit être réorganisé et permettre aux Béninois de savoir ce qu'ils consomment réellement. Pour Anissier, conducteur de Tassimoto, la variation des prix selon la pharmacie est un frein énorme et si l'État tient à enrayer définitivement le phénomène, il faudra régulariser le secteur.
Vous allez dans une pharmacie et vous trouvez peut-être que c'est à 1400 ce médicament X. Vous allez ailleurs, vous trouvez que le médicament est à 1600. L'État n'a qu'à faire un effort pour que tous les pharmaciens de ce pays parlent le même langage en matière de prix. En matière de qualité, vous allez dans des pharmacies qui ne sont pas climatisées. Vous allez dans des pharmacies où quand vous prenez la boîte, elle est tapie de poussière.
Le gouvernement Talon réussira-t-il le pari de suppression de la vente des médicaments illicites? Certains sont sceptiques. C'est un grossiste en prison et marché détruit ne suffiront pas à freiner les unicités des trafiquants puisque le circuit existe toujours et permet à ceux qui le veulent de s'approvisionner.
Est-ce que la population béninoise a ce qu'il faut pour aller en pharmacie se soigner comme cela se doit?
Beaucoup estiment que le député pharmacien resté introuvable depuis plusieurs mois doit pouvoir se présenter devant la justice. Une tâche difficile pour le gouvernement qui doit montrer son impartialité dans une affaire qui met devant la scène un de ses premiers soutiens.
Si Attam n'a rien à se reprocher, qu'il se présente à la justice et qu'il s'explique.
Que tu sois ministre, simple citoyen ou pas, quand tu violes la loi, tu dois subir les conséquences. Et c'est de ça qu'il s'agit.
En finir avec la vente des médicaments illicites est un combat de longue haleine et la condamnation des grossistes répartiteurs pose un autre problème, celui de la qualité des produits qui se trouvent dans les pharmacies. Un autre combat que doit engager le gouvernement pour la protection des populations qui ne méritent pas d'acheter la mort dans le souci de se soigner. De Cotonou, Ginette Le Adonné pour VOA Afrique.
À quelques mois des élections générales au Nigeria, les jeunes veulent faire entendre leur voix. Des centaines d'entre eux ont manifesté à Abuja hier pour demander au président Muhammadu Buhari de tout faire pour donner l'opportunité aux jeunes de se présenter à tous les postes électifs, d'autant que les moins de 25 ans représentent 50% de la population nigériane. D'Abuja, le reportage du correspondant de VOA Afrique, Gilbert Tamba.
Ils étaient plusieurs centaines de jeunes dans les rues de la capitale fédérale du Nigeria pour exiger du président nigérien Muhammadu Buhari la signature du projet de loi Notu Yonturong. Ce projet adopté par le Sénat il y a quelques mois permet désormais aux jeunes de se présenter à la présidence de la République dès l'âge de 35 ans, ce qui n'est pas possible actuellement. Yetunde Bakari fait partie d'un réseau de jeunes au Nigeria.
Les piliers de la démocratie, c'est l'inclusion et la participation. Si plus de 50% de la population n'est pas impliquée dans le processus de prise de décision, ce n'est pas la démocratie. Donc je suis là avec les jeunes pour demander au président de signer le projet de loi Not to Young to Run. Ce projet par les jeunes et pour les jeunes.
Aujourd'hui, il faut 40 ans minimum pour être candidat à la magistrature suprême au Nigeria. Si les jeunes obtiennent la signature du président Muhammadu Buhari, cela signifie que les jeunes nigériens pourraient désormais se présenter à la présidence de ce pays le plus peuplé d'Afrique, mais aussi être gouverneur d'un État ou encore devenir sénateur à l'âge de 30 ans. Tom Agbo est le président du groupe du Parlement des jeunes africains.
Nous n'avions pas encore bénéficié d'une grande opportunité. Nous ne sommes pas impliqués jusqu'ici parce que nous ne parlons pas encore d'une seule voix. Le problème était jusqu'ici à notre niveau. Depuis longtemps, nous soutenons nos grands-pères, oubliant un programme qui pourrait couvrir tout le monde.
Avec l'adoption de cette réforme, des personnes âgées de 25 ans pourraient légiférer dans les assemblées nationales et étatiques à travers le pays. Malgré le niveau élevé du jeu politique dans ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes Nigériens se disent confiants de leur inclusion dans le processus électoral. Michael Chukwu Ebuka Okoye est membre du Conseil national de la jeunesse nigérienne.
Oui, comme nous voyons les choses, la lutte contre la corruption et le combat pour le développement, ce n'est pas seulement une lutte physique, mais il faut utiliser les connaissances. Et nous, les jeunes, nous avons la mémoire fraîche et la force pour développer le Nigeria. Je suis sûr et certain que nous sommes déterminés à faire bouger ce pays.
À ce jour, en plus du Sénat nigérian, 25 États sur les 36 qui composent le Nigeria ont adopté le projet de loi comme le demandait la constitution du pays. Avant la signature du président, Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. Anne qui était également avec nous dans la première partie pour le journal. Jimmy Cook était à la console. Un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente journée sur VOA Afrique. Take care.